Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Tous les enfants autistes devraient posséder leur propre tablette numérique en milieu scolaire. C'est ce que croit la Fondation Justine et Florence, un organisme qui est spécialisé dans les troubles du spectre de l'autisme chez les enfants et qui a lancé à la fin du mois de janvier une tablette pour un sourire. En fait, c'est une campagne afin d'amasser des fonds pour acheter des tablettes et des applications nécessaires. Alors, je discute avec Catherine Chevrette, présidente et cofondatrice de la Fondation Justine et Florence, et ça, c'est en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, février, c'est pas juste le mois des amoureux, c'est également le mois de la santé du cœur. Un bon moment pour, en fait, je vous le propose, hein, un bon moment pour vous arrêter, vous demander si vous faites le possible pour garder votre cœur au sommet de sa forme. Et un bon moment aussi pour se rappeler que les maladies du cœur sont responsables de 66 000 décès au Canada chaque année. Comment on peut prendre en main sa santé cardiovasculaire? Je vous présente à l'instant le docteur Georges Onos, lui qui est chef du service de cardiologie du CHUM à l'hôpital Hôtel-Dieu, également porte-parole expert de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec et du Canada, qui sera là pour nous donner quelques trucs. Bonjour, docteur Onos.
Bonjour.
Votre cœur va bien?
Oui, très, très bien.
Docteur Onos, je lisais le bulletin de santé 2015 de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et j'apprenais que l'une des plus grandes réussites dans les derniers 60 ans, c'est le taux de survie qui est de plus en plus élevé grâce notamment aux recherches, aux traitements, aux diagnostics. Toutefois, je me disais en même temps, les gens, bon, les taux d'obésité, de surpoids, ça, c'est sans cesse en augmentation au pays. Également, le diabète qui touche 2 millions de Canadiens. Donc, les défis restent quand même toujours bien présents.
Tout à fait. Il y a encore 4 chances sur 10 qu'on décède d'une crise de cœur ou de ses séquelles au Canada.
Oui, c'est énorme. Et je lisais que ça touche un Canadien sur deux. De quelle façon? Parce qu'un Canadien sur deux, c'est énorme, Dr. Onos.
Oui, c'est sûr que c'est très prévalent comme problème et la population vit plus longtemps. Et évidemment, l'âge devient le facteur principal qui prédispose à ces maladies. Alors, en quelque sorte, nous sommes victimes de notre succès. Les individus vont survivre à des problèmes de naissance, vont survivre à leurs problèmes coronariens ou valvulaires. Nos médecins, nos chirurgiens ont beaucoup plus d'outils disponibles pour réussir à garder les gens en vie, autonomes et avec une bonne qualité de vie. Mais ce que ça donne, c'est une population vieillissante qui souvent souffre déjà de maladies cardiovasculaires pendant de nombreuses années et qu'on doit prendre en charge.
Oui. L'une des choses qui m'a, je dirais, étonnée à la lecture de ce bulletin, c'est que les femmes sont plus touchées par les maladies cardiovasculaires que les hommes. Ça, c'est un petit peu un mythe que l'on défait, on a l'impression que seulement les hommes peuvent être touchés ou en tout cas du moins davantage.
Oui, les femmes sont autant touchées que les hommes. Ça fait une douzaine d'années que je suis porte-parole pour la Fondation et c'est un des thèmes qu'on a repris à chaque année parce que les femmes sont historiquement très sensibilisées par le risque de cancer du sein, mais ils ont plusieurs fois, jusqu'à 7-8 fois plus de chances de succomber à des séquelles cardiovasculaires. Elles ont également la chance d'avoir des symptômes tels que l'angine de poitrine plus souvent comme symptômes avant-coureurs. Mais le problème, c'est que les femmes ne pensent pas aux problèmes cardiaques comme étant responsables des symptômes, mais souvent, elles vont présenter plus tardivement et on peut faire moins pour les aider à ce moment-là si elles attendent pour se présenter à l'urgence.
Ouais. Et c'est notamment après la ménopause qu'elles sont davantage touchées ou susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire.
Exactement. Les hormones sont protecteurs jusqu'à la ménopause, mais quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui fume, par exemple, ça surmonte la protection offerte par les hormones. Et donc, on voit des femmes à la fin trentaine, quarantaine, avec des crises de cœur dans notre unité coronarienne ici au CHUM.
Mm-hmm. Vous disiez, Dr Renos, que quand les femmes, ou les hommes, bien sûr, là, on pourrait tous nous mettre dans le même panier, quand on tarde à les consulter, c'est là que ça devient plus problématique pour traiter une maladie cardiovasculaire. Comment on peut arriver à faire du diagnostic précoce?
Alors, il y a deux éléments ici. Pour ce qui est de la prévention, c'est clair que bon nombre des auditeurs n'ont pas de médecin de famille.
Ouais.
On a 6 mois d'hiver avec de la neige, de la glace au sol. Alors, la sédentarité, une nutrition équilibrée, riche en fruits et légumes 12 mois sur 12, c'est déjà un défi que chacun et chacune des auditeurs doivent surmonter. Il y a aussi des facteurs de risque à dépister à partir de 40 ans qui sont modifiables, tels que l'hypertension, le diabète et le cholestérol. Donc, une prise de sang annuelle serait recommandée. La tension devrait être mesurée quand on a une opportunité, soit à la maison ou à la pharmacie. Et aussi, si on a une histoire dans la famille de père, mère, frère ou sœur, donc une parenté très rapproché, mm-hmm. qui souffre d'une crise en bas de 60 ans, ça double notre risque. Donc, les auditeurs peuvent avoir une idée générale de leur risque et peuvent intervenir sur certains éléments pour prévenir le problème. Maintenant, le deuxième point, c'est que quand on a un symptôme qui est suggestif d'un problème de crise cardiaque, par exemple un serrement comme un étau ou une douleur au centre de la poitrine qui persiste, mais il ne faut pas hésiter de faire 911 et de se diriger à l'hôpital. Les patients cardiaques sont priorisé numéro 1 dans les salles d'urgence. Les électrocardiogrammes se font dans les minutes de l'enregistrement de l'arrivée à l'hôpital. Il n'y a pas d'attente des heures dans la salle d'attente comme on peut percevoir dans certains cas. Et c'est mieux de se faire rassurer qu'il n'y a rien ou que de passer à côté d'une crise de cœur où on aurait pu enlever le caillot, dilater l'artère, limiter les dommages et améliorer le pronostic si le patient arrive assez tôt à l'hôpital.
Et les taux de survie sont vraiment encourageants. 95% des gens qui se rendent à l'hôpital survivent à la suite d'un malaise.
C'est vraiment exceptionnel, oui. Quand j'étais résident, il y a à peine 20-25 ans, on avait une taux de mortalité. Le taux de mortalité à l'hôpital était entre 15 et 20. Là, si le patient arrive précocement dans l'heure qui suit le début des symptômes, c'est 3, 4, 5 % de taux de mortalité. Donc, effectivement, 95 % et plus vont quitter l'hôpital et la plupart n'ont pas de séquelles majeures. C'est un gros avertissement qu'ils auront eu, mais ils doivent par la suite se prendre en main, doivent prendre les médicaments préventifs qu'on leur prescrit. Puis là, évidemment, ils sont motivés maintenant de trouver des moments pour se déstresser, des moments pour faire de l'exercice sur une base régulière.
Oui, disons que c'est une bonne sonnette d'alarme. Hein?
Oui, oui, effectivement. Mais le but, c'est que les auditeurs se prennent en main avant de passer quelques jours dans notre unité coronarienne pour avoir ça.
Oui. Bien sûr, on le dit, important de se rendre dans un centre hospitalier si l'on croit avoir des symptômes, mais comment les reconnaître?
C'est ça. Alors, c'est clair que le premier point, c'est qu'on ne peut pas attendre les symptômes avant de réorienter notre mode de vie vers un mode de vie plus saine et faire attention à ces facteurs de risque, parce que 2/3 des hommes et la moitié des femmes n'auront pas de symptômes avant-coureurs. Ça veut dire que le premier symptôme, ce sera la crise cardiaque. Et souvent, c'est une douleur qui est décrite comme une des douleurs les plus sévères qu'on peut ressentir. C'est au centre de la poitrine, des fois le sang dans le centre du dos, ça peut se répandre dans le bras gauche et même dans la mâchoire. Mais d'autres personnes n'ont pas de douleur. Elles ont plutôt un essoufflement qui est hors de toute proportion de ce qu'ils font, qui est une fatigue, ils peuvent avoir une transpiration inappropriée qui peut être la première manifestation d'une crise cardiaque. Donc, il faut y penser. Certainement, entre l'âge de 40 ans ou plus, quelqu'un qui est à risque, qui a ces symptômes-là, c'est beaucoup plus prudent d'appeler 911, de vérifier ce qui se passe à l'hôpital. Ils vont faire une prise de sang, quelques cardiogrammes. Et si c'est un infarctus, le diagnostic se fait immédiatement et l'intervention dans l'heure qui suit. Si ce n'est pas une crise cardiaque ou infarctus, le patient au moins est rassuré et donc pourra aller voir ailleurs pour expliquer les symptômes.
Mm-hmm. Quelles sont, Dr Renos, les principales maladies du cœur? Parce que quand on va sur le site de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, il y en a plusieurs. C'est facile de s'y perdre, mais j'imagine qu'il y en a qui reviennent plus souvent.
C'est sûr. Alors, on les catégorise sous forme de naissance ou acquise. Alors, les choses de naissance, on les récupère dès la naissance ou des premières années de vie. Avec le temps, par contre, on a à peu près 1 milliard de battements par 25 ans. Alors, à partir de 25-30 ans, on peut commencer à acquérir des problèmes. Le plus souvent, c'est la plomberie, c'est les blocages qu'on dit l'athérosclérose dans l'artère coronaire. On a plusieurs branches qui nourrissent le cœur. Donc, ça, c'est le plus fréquent. On a aussi 4 valves qui dirigent le sang à travers le cœur, et ces valves peuvent se bloquer ou encore couler quand elles se ferment et donc elles ne plus être étanches. Donc les valvulopathies sont une autre cause. Il y a aussi des maladies qui affectent directement le muscle du cœur sans qu'il y ait un problème de plomberie. On appelle ça les cardiomyopathies. Alors ça peut être des fois identifié comme secondaire à une autre pathologie, un excès d'alcool par exemple, suite à une naissance. Ça peut survenir, ou des fois on parle du cœur brisé, le stress, un stress très subit peut aussi causer une faiblesse souvent transitoire du muscle cardiaque. Donc ça, c'est la cardiomyopathie. Et l'autre chose qui augmente énormément dans notre société, c'est l'insuffisance cardiaque. Moi, j'appelle ça le résultat de nos succès depuis les 25 dernières années. Les patients survivent à toutes les autres pathologies qui atteignent le cœur, et le cœur éventuellement ne peut plus compenser, devient affaibli, et là, le patient a été soufflé, fatigué. On a dû développer des cliniques spécialisées avec une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge ces patients-là, tellement ces patients sont nombreux dans notre société.
Et aussi, j'imagine, parce qu'il y a un vieillissement de la population.
Oui, c'est sûr que l'âge en soi est un risque pour plusieurs des manifestations cardiaques, et aussi ça rend notre tâche plus complexe parce que nos patients sont plus seulement cardiaques, mais ils sont cardiaques avec d'autres pathologies, des comorbidités de plus en plus fréquentes dont on doit prendre en charge aussi le traitement, et ça complexifie un peu le problème.
Là, je dois vous avouer, Dr Henoz, qu'en préparant l'entrevue, moi j'avais du mal à saisir quel était le lien des AVC avec les maladies du cœur, parce que j'ai toujours associé les AVC plutôt au cerveau, à la santé du cerveau.
Oui. Oui, mais c'est, pour les auditeurs, c'est très, très simple. C'est exactement la même pathologie. C'est l'athérosclérose. C'est des dépôts de gras, de cholestérol dans la paroi des artères. Alors, quand les artères sont au niveau du cœur, c'est les artères coronaires, ça nourrit le cœur. Si ça se bloque, c'est une crise de cœur. Quand les artères sont au niveau du cerveau, c'est les artères carotidiennes et leurs branches. Et quand elles se bloquent, ben, c'est un AVC. Donc, le traitement et la pathologie, c'est la même. La prévention est similaire, sinon la même. Et même l'approche maintenant, en 2015, est similaire. C'est une personne, j'ai une dame qui a fait un AVC à l'étage ici, et on a transféré à Notre-Dame, où dans la première heure, on a retiré le caillot et on a dilaté l'artère, et elle est complètement revenue, sa paralysie s'est complètement normalisée en 24-48 heures. Donc c'est fini, c'est pas tout ou rien un AVC, de la même façon que c'est pas tout ou rien une crise de cœur. Il y a une opportunité pendant les 6-12 prochaines heures d'intervenir, et c'est là que les auditeurs doivent vraiment se prendre en charge, parce que mettre les chances de leur côté et se présenter suffisamment vite à l'hôpital pour qu'on puisse identifier le problème et intervenir et limiter les dommages à long terme.
Donc, quand les artères du cerveau sont bloquées, c'est bien ça, ça crée un AVC.
Quand le cerveau, c'est ça, l'AVC peut être hémorragique, ça peut être une hémorragie aussi, mais disons que souvent, c'est une artère qui nourrit le cerveau, qui est bloquée, soit localement, ça peut aussi être un caillot qui provient d'ailleurs, par exemple, qui provient du cœur et qui va flotter jusqu'au niveau du cerveau pour bloquer l'artère. Donc ça, c'est un AVC dit embolique. Donc là, il y a plusieurs types d'AVC, mais le point commun, c'est que c'est vasculaire, il y a un manque de nutrition et d'oxygène au cerveau, et donc il y a un dommage. Et si on n'améliore pas cette circulation rapidement, le dommage devient permanent.
Ah ben, ça a quelque chose de fascinant, cette plomberie-là, Dr Henoz.
Oui.
Maintenant, les tests, de plus en plus, je pense que la Fondation le fait, des tests que l'on peut faire en ligne, dans, bien sûr, tout ça dans le but de faire de la détection précoce.
Oui. Alors, les tests qu'on peut faire, souvent, ça commence avec un tapis roulant qu'on va offrir à quelqu'un qui a des symptômes, par exemple, de malaise à la poitrine qui sont difficiles à déceler, puis on n'est pas certain. Alors, on fait marcher le patient sur un tapis pour voir, lorsqu'on stimule le cœur d'aller plus fort, plus vite, est-ce qu'il y a des signes ou des symptômes qui suggèrent que la plomberie n'est justement pas au rendez-vous, qu'il y a des blocages. On peut rajouter, dans certains cas, au tapis roulant, des images, soit par ultrason cardiaque, soit par des techniques de médecine nucléaire, des imageries nucléaires. Ça, c'est pour améliorer notre capacité de déceler le problème, mm-hmm. pronostiquer le patient. Quand on n'est pas incertain ou on a des signes de haut risque, on va une étape plus loin. Et là, on peut insérer via le poignet, dans l'artère radiale du poignet, des petits cathéters qui remontent jusqu'à l'entrée des coronaires, juste près du cœur. On injecte ce qu'on appelle des colorants qui nous permettent de prendre des photos et on peut voir directement l'étendue des blocages, s'il y a lieu, leur site, et voir si on peut intervenir. Et des fois, on peut dilater sur le champ lors du même test. Okay. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de techniques d'imagerie plus avancées aussi qui nous permettent, pour les autres pathologies, de constater le problème, d'évaluer la sévérité du problème et aussi le timing, le bon moment pour intervenir, parce que certains de ces problèmes, on va les suivre pendant des années, des fois des dizaines d'années, avant qu'on ait besoin d'intervenir, par exemple, chirurgicalement.
Mais encore faut-il, Dr Hanna, si ça revient à un sujet, un point soulevé tout à l'heure, avoir un médecin de famille?
Oui, c'est sûr que la première étape, c'est le médecin de famille. Le médecin de famille va généralement décider s'il y a assez d'inquiétude pour référer le patient à un cardiologue. On a au Québec 460 cardiologues environ, donc on est très, très chanceux. Mm-hmm. C'est relativement facile d'avoir un accès à un cardiologue, surtout quand on a au risque de devoir développer quelque chose. Et habituellement, les tests, c'est les cardiologues qui vont poursuivre pour vraiment définir le problème. Et si le problème est diagnostiqué, le patient va être suivi à long terme aussi par un cardiologue.
Mm-hmm. En terminant, Dr Hanna, est-ce que les défibrillateurs que l'on retrouve de plus en plus dans les lieux publics au Québec, est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment un facteur qui change la donne, qui aide au taux de survie?
Oui, absolument. Ça va changer de la donne. J'étais chez Cogeco pour faire une entrevue la semaine dernière. J'ai vu le défibrillateur au mur et je me posais la question, c'est bien décoratif, c'est très beau de le voir. Est-ce que les gens savent comment l'utiliser? Est-ce
voilà.
qu'ils vont aller le chercher? Est-ce que quelqu'un a été formé? On a l'exemple de quelqu'un qui a été laissé pendant 16 minutes dans le métro inconscient avant que quelqu'un s'arrête. Alors, le problème, c'est pas peut-être la disponibilité de défibrillateurs, c'est peut-être l'inertie du public d'intervenir chez les patients qui ont besoin de secours de première ligne. Donc, parallèlement aux défibrillateurs, nous avons des programmes d'entraînement, des programmes Héros en 30, par exemple, de l'urgence santé, qui en 30 minutes vont enseigner au public intéressé comment faire une réanimation, comment amorcer une réanimation et comment utiliser et appliquer le défibrillateur. C'est très facile si on nous le montre. Donc, en 30 minutes, ils sont comme certifiés, ça leur donne confiance. Et on espère qu'à Montréal, comme dans certaines villes comme Seattle, aux États-Unis et ailleurs où ça a été implanté, qu'on puisse vraiment réduire le nombre de patients qui n'atteignent pas l'hôpital. Parce qu'on n'en a pas parlé de ces patients-là, mais de ceux qui développent une crise de cœur, il y a bon nombre qui n'atteignent jamais l'hôpital et c'est leur seul symptôme, leur premier et dernier symptôme cardiaque. Alors, c'est clair que des fois, on choisit l'endroit où on s'écroule et on a besoin d'aide et on est sur les marches de l'hôpital et on peut survivre. Mais si on est dans un milieu public en dehors des hôpitaux, c'est pour ça que les défibrillateurs maintenant sont disponibles. Il faudra que le public soit sensibilisé et à l'aise de les utiliser.
C'est un message que l'on entend bien, Dr Georges Hanna, chef du service de cardiologie de l'hôpital Hôtel-Dieu du CHUM, porte-parole, expert de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec et du Canada. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
C'est un plaisir de vous adresser et une bonne après-midi à tout le monde.
À vous, au revoir.
Bye-bye.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Catherine Chevrette.
Bonjour madame.
Vous êtes présidente et cofondatrice de la Fondation Justine et Florence et mon petit doigt me dit la maman de Justine, c'est
exactement
ça? Exactement. Vous avez créé l'été dernier la Fondation Justine et Florence. Quelle est la mission, je dirais, maintenue ou tenue par la Fondation?
Bien, la Fondation existe depuis, je vous dirais, l'été 2013.
Okay.
Le lancement officiel de la Fondation a eu lieu en janvier dernier, en janvier 2014. Alors, on a eu une année 2014 bien remplie, mais l'objectif de la Fondation est de promouvoir, faciliter et contribuer au développement social et intellectuel des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Ce que ça signifie, mais concrètement, c'est que beaucoup d'écoles tentent d'intégrer les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Et malheureusement, ils n'ont pas le matériel, les installations nécessaires. Donc, la Fondation a pour mission de pallier ces différents manques par le financement de projets spéciaux pour permettre aux enfants, justement, d'atteindre leur plein potentiel à eux en termes de développement.
Et l'un de vos projets spéciaux, c'est le lancement de cette campagne-là, fin janvier, pour offrir des tablettes à des jeunes qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme.
Exactement. En janvier 2014, on a fait un gros lancement qui est la campagne « Une tablette pour un sourire ». Donc, c'était le lancement, mais on est allé prudemment. Nous sommes allés prudemment parce qu'on voulait y aller avec un projet pilote au préalable. Mm-hmm. Donc, la campagne vise à financer l'acquisition de tablettes électroniques pour les élèves du primaire et du secondaire qui fréquentent, bien entendu, les classes spécialisées du réseau scolaire du Québec. Alors, à terme, parce qu'il y a des grandes nouvelles qui s'en viennent pour la Fondation, là, dans les prochaines semaines, avec une autre campagne de financement sous le même thème, mais à terme, notre objectif serait de fournir deux tablettes à la disposition des élèves, là, deux tablettes par classe spécialisées au Québec.
Et justement, parlons-en de ce projet pilote-là, parce qu'il s'est installé dans 6 classes spécialisées, si je ne me trompe pas, de la Commission scolaire des Patriotes en Montérégie.
Oui.
Ça a donné quoi? Quel a été le retour des enseignants, des intervenants?
Bien, c'est sûr que c'était à leur demande. Hein. Quand on a débuté la Fondation, on demandait quels sont les besoins en classe, de quoi vous avez le plus besoin. Et je vous dirais que quasi à l'unanimité, ils nous ont répondu, on veut des tablettes électroniques. Alors, qu'on ait répondu principalement le pavillon Marie-Victorin de la Commission scolaire des Patriotes en Montérégie est le seul endroit où c'est une école qu'avec des classes spécialisées pour enfants autistes. Parce que dans la plupart des écoles au Québec, il y a une ou deux classes ou plus de classes. Comme par exemple à la polyvalente de Mortagne à Boucherville, il y a, je crois, 6 ou 8 classes. Alors, mais cette école-là, c'est que des classes pour ces enfants. Et l'accueil a été... disons qu'on était accueillis à bras ouverts. Ils étaient tous contents, tant les enfants, les enseignants, que le personnel professionnel qui accompagne les enfants dans leur évolution.
Et Catherine Chevrette, pourquoi des tablettes? Qu'est-ce que ça permet à ces jeunes-là? Qu'est-ce que ça développe également?
Il faut comprendre que moi, dans un premier lieu, je suis une maman. Hein?
Oui.
Et non une scientifique. Donc, je ne prendrai pas le risque de dire des choses qui ne sont pas vraies. Par contre, je suis devenue familière avec l'utilisation de la tablette à des fins pédagogiques, je vous dirais, par l'utilisation que nous, on en a fait à la maison. Et rapidement, on a pu constater les bénéfices de l'utilisation de la tablette. Il faut comprendre que les enfants atteints d'un TSA, d'un trouble du spectre de l'autisme, ont de la difficulté à apprendre avec les méthodes traditionnelles. Donc, ils réagissent mal parfois à certains stimuli, que ce soit auditifs, visuels, et ils réagissent mieux à d'autres stimuli. Et la tablette, la beauté de la chose, c'est qu'on le voit, on a une réponse immédiate aussitôt qu'on fait un exercice, soit en mathématiques ou en français, ou tout simplement dans l'évolution du langage. Donc, c'est plus intéressant pour l'enfant d'avoir une récompense, un stimuli rapide. On a vu rapidement que les enfants avaient un meilleur degré de concentration. Bien entendu, ces tablettes-là sont utilisées sous supervision du personnel enseignant. On ne les laisse pas jouer avec les iPads. Ils sont supervisés et à petite dose. Et on voit vraiment que naturellement, certaines difficultés diminuent en termes de concentration ou tout simplement aussi les enfants autistes souvent ont de la difficulté avec leur motricité fine, donc tenir un crayon. Mm-hmm. Alors, quoi de mieux que d'écrire directement avec son doigt sur l'écran? Donc, ça leur permet de les stimuler visuellement, auditivement et même artistiquement, parce que certains enfants vont y aller plus par le dessin que par d'autres méthodes. Donc, oui, on le voit, le bénéfice, les profs sont super contents, les enfants, quand on leur met les tablettes entre les mains, ils ont des sourires. Et si vous allez sur notre site web de la Fondation, vous allez voir qu'il y a des vidéos témoignages de parents. Et c'est assez touchant. On voit qu'un père qui a vu les tablettes utilisées à l'école a tout de suite vu un changement, là, une mère aussi rapidement pour l'enfant.
www.unetabletteunsourire.com.
Exactement.
Mm-hmm. Les enseignants, le personnel scolaire devra être formé aussi. J'imagine que ça fait partie de la campagne d'amasser des sous aussi,
oui,
pour leur offrir une formation.
La formation vient, faut comprendre que, bon, nous, il y avait certaines problématiques là, en termes contractuels avec les commissions scolaires. Des fois, au Québec, on a de la difficulté à faire les choses simples. Quand ça peut être compliqué, pourquoi pas le faire compliqué? Faut comprendre que les écoles achètent le matériel et la Fondation rembourse. Bon, c'est pour des raisons là, de budget et certaines, je vous dirais, là, procédures bureaucratiques. Mm-hmm. Et les gens de qui on achète les tablettes fournissent la formation. Donc, c'est une entente que l'on a avec eux. Je nommerai pas le fournisseur, mais tout le monde l'a deviné.
Bien sûr.
On n'a pas le droit de le nommer. Et c'est de cette manière-là. Par contre, je vous dirais que une tablette électronique, là, c'est assez instinctif. Donc,
oui,
le but est de trouver les bonnes applications. Et sur notre conseil d'administration, on a la chance d'avoir une merveilleuse ergothérapeute qui s'y connaît très bien en application et qui travaille conjointement, régulièrement, avec des équipes de professionnels des différentes commissions scolaires, donc des orthophonistes, des orthopédagogues, afin de déterminer quelle application sera le plus utilisée ou sera le plus efficient chez certains groupes d'enfants. Ce ne sont pas les mêmes applications en maternelle qu'en secondaire 3 et dépendamment du niveau de langage ou du degré d'apprentissage de l'enfant. Donc, tout ça se fait en équipe.
Mm-hmm. Et en terminant, Mme Chevrette, 3500 tablettes, c'est votre objectif.
Oui.
Vous êtes rendue à combien?
Je vous dirais que si tout va bien, d'ici la fin de l'année, nous pourrions distribuer environ 200 tablettes de plus.
Bien, on vous le souhaite et on suivra votre évolution. Catherine Chevrette, présidente et cofondatrice, oui, de la Fondation Justine et Florence. Salutations à
Merci.
Justine.
Merci beaucoup.
Bon après-midi.
Au revoir.
Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est déjà la fin de l'émission, mais on est en rediffusion à 17h. Vous pouvez également nous suivre au www.canalm.org pour me joindre 1-800-361-0635, poste 220 ou par courriel. Ben, c'est le mpaquet@vuesetvoix.com. Toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. Et puis, ben, on se donne rendez-vous demain. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro, qui vous souhaite une belle fin de journée si vous nous écoutez en direct, une belle soirée si vous êtes en rediffusion. À demain, portez-vous bien. Bye-bye.